Vous écoutez France Culture.
Place des Peuples, Madeleine Mukamabano.
Bonjour à tous. Baisse significative de la natalité, vieillissement de la population, le Japon est confronté à un risque de déclin démographique aux multiples conséquences. La situation est prise au sérieux par les économistes et par les pouvoirs politiques qui tentent d'élaborer des solutions pour freiner la décroissance de la population. Mais selon certains analystes japonais, les stratégies à long terme pour relancer la natalité restent peu convaincantes. Le déclin de la démographie au Japon, on en parle avec Jacques Véron. Il est directeur de recherche à l'INED, l'Institut national des études démographiques. Jacques Véron, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le Japon compte aujourd'hui quelques 127 millions et vous avez vu comme moi des études ou des projections qui annoncent que si la natalité continue à baisser, d'ici 3000, il n'y aura plus de Japonais. Alors bon, c'est une fiction peut-être, mais on a l'impression que cet aspect démographique a toujours été permanent dans l'histoire du Japon, sauf qu'avant, le Japon craignait la surpopulation et qu'aujourd'hui, il se retrouve à craindre le déclin total.
Oui, exactement, parce que déjà au début du XVIIIe siècle, les Japonais se croyaient trop nombreux. Et donc, il y avait déjà des mesures, il y avait déjà des pratiques d'avortement clandestin, d'infanticide, d'abandon d'enfants pour limiter la croissance de la population. Puis finalement, la population a été multipliée par 4 dans les 150 ans qui ont suivi. Et cette croissance a correspondu aussi à une amélioration de la situation des Japonais. Mais cette crainte de la surpopulation, elle s'est tellement manifestée que le Japon a adopté une loi qui s'appelle la loi de protection eugénique en 1948 et qui a été réaménagée en 1952, qui libéralisait l'avortement, qui autorisait la stérilisation, qui contribuait à la dissémination de la contraception dans le but de limiter la fécondité. Et le résultat a été là, puisque en une dizaine d'années, le nombre d'enfants par femme a été réduit de moitié, de 4 à 2. Oui. Donc cet objectif de limitation de la population a été atteint, mais avec des efforts très importants.
Est-ce que c'est ça qui explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui ?
Non, ça ne l'explique pas du tout. Enfin, à mon sens, c'est complètement indépendant. Je crois que finalement...
Parce qu'à un moment donné, la population a remonté, en fait, la natalité a remonté, non ?
Alors, elle est restée après relativement stable. Il y a eu une année où elle a beaucoup baissé, mais c'est l'année cheval et feu pour des raisons de superstition, parce qu'il ne fallait pas avoir une petite fille qui naisse cette année-là. Donc, c'était en 66. Mais sinon, la fécondité était restée relativement stable. Et puis ensuite, il y a eu un décrochage, et un décrochage assez lent, mais régulier. Et les Japonais s'en sont pas tellement rendus compte, finalement, de ce décrochage, jusqu'à un moment où... on est passé à 1,53. Alors, je ne sais pas pourquoi ce chiffre, mais ça a fait un choc à la société japonaise qui, d'un coup, s'est dit, mais on a de moins en moins de jeunes, on va avoir de plus en plus de personnes âgées. Et là, ils ont commencé à se préoccuper de la question.
Oui. Alors, ce à quoi on assiste aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a deux facteurs qui se conjuguent. Il y a cette baisse de natalité. Ils sont maintenant à 1,3.
Oui, ils sont à 1,3, dans les dernières.
Et le vieillissement de la population, c'est le Japon compte la population la plus vieille au monde.
Oui, il y a un potentiel de vieillissement considérable au Japon. Donc ça, c'est un fait tout à fait majeur. Alors, c'est d'autant plus un fait majeur que cette logique qui est derrière, c'est une très basse fécondité et une espérance de vie très élevée. Le Japon est le pays au monde où l'espérance de vie est la plus forte. Donc cette combinaison d'une très basse fécondité et d'une basse mortalité entraîne mécaniquement un vieillissement très marqué de la population. Et il apparaît bien que la société n'est pas préparée, une société qui était fondée longtemps sur la coexistence de 3 générations, elle ne peut pas supporter vraiment ce fort potentiel d'accroissement et ce fort potentiel de vieillissement. D'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que les familles à trois générations sont de moins en moins nombreuses aujourd'hui, alors que techniquement, elles pourraient être plus nombreuses.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve les parents et les grands-parents, mais pas les enfants.
Oui, les grands-parents ne vivent plus avec les parents et les enfants. Mais donc, ce modèle de coexistence des trois générations a complètement éclaté de manière très, très rapide.
Oui. Mais qu'est-ce qui explique, parce qu'on se dit, bon, il y a ce vieillissement de la population, mais qu'est-ce qui fait tout simplement que les Japonais ne font plus tellement d'enfants ? Alors que c'est un pays développé, c'est un pays qui a les moyens, et qui a pris conscience aussi de cette menace de déclin.
Oui, alors mon explication, ce serait que les rapports entre les hommes et les femmes au Japon n'ont pas subi les modifications liées en particulier à l'augmentation des taux de scolarisation des femmes. Les femmes sont très scolarisées au Japon et les emplois sur le marché du travail sont des emplois encore relativement peu qualifiés. Donc les femmes sont relativement peu actives sur le marché du travail.
Alors qu'elles sont formées.
Alors qu'elles sont formées. Et il y a beaucoup de travail à temps partiel. Donc, elles n'ont pas vraiment une autonomie. Et ce qui accompagne cette évolution, c'est un retard ou un refus du mariage. Pour l'instant, c'est difficile encore de dire. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que les femmes restent célibataires de plus en plus longtemps. Et ce n'est pas du tout un célibat comme ça peut être en France ou dans d'autres pays européens qui s'accompagne d'une mise en couple. C'est un célibat correspondant au fait que les gens vivent seuls. Et donc, il n'y a aucune naissance, ou très très peu, il y a 2% de naissances hors mariage.
Donc il y a des aspects quand même traditionnels et qui restent.
Qui restent complètement. Donc d'un côté, il y a ce retard considérable du mariage, mais pas du tout d'évolution dans les mœurs qui ferait que cette baisse de la nuptialité pourrait être indifférente, je dirais, du point de vue de la fécondité. Donc ça entraîne une baisse tout à fait mécanique via ce célibat du nombre d'enfants par femme.
À vous écouter, il y a des aspects presque financiers ou matériels qui comptent dans cette dénatalité. Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à la crise des années 90 pour expliquer cela ?
Moi, je pense que c'est plus le système de valeurs qui est en jeu. Oui. Parce que quand on interroge, il y a eu une enquête qui a été faite, on a interrogé les gens pour savoir s'il y avait une forme de refus de l'enfant ou de retard de l'enfant. Alors, effectivement, les gens insistent beaucoup sur le coût de l'enfant.
Oui.
Mais ce qui apparaît le plus, c'est le manque d'égalité entre les sexes, entre hommes et femmes. Et ça apparaît comme un obstacle important.
Oui, c'est-à-dire parce qu'il y a eu la loi sur l'égalité des sexes, c'était en 1985, je crois, ou dans les années 80, en tout cas au milieu des années 80.
Oui, mais dans la pratique, et notamment ce que je disais tout à l'heure, dans la pratique professionnelle, il y a très très peu d'égalité. Donc je pense qu'on est quand même dans une situation transitoire. Alors l'effet augmentation du coût de l'enfant, il est toujours un petit peu paradoxal, parce que plus le niveau de vie augmente, plus les gens aspirent pour leurs enfants à des choses variées. Donc le coût psychologique peut augmenter, même si la situation financière s'améliore. Mais ça apparaît, cet élément coût de l'enfant, dans les enquêtes, mais en tout cas, il n'y a pas
primordial.
L'idée... Oui, ça n'explique pas qu'il y ait 1,3 enfant par femme, ça n'explique pas un niveau aussi bas.
Alors là, vous parlez des femmes qui ont fait des études, donc qui veulent garder leur indépendance le plus longtemps possible, puisqu'une fois dans le couple, elles tombent presque sous le coup de la tradition, avec l'obéissance au mari, avec le fait de renoncer à leur travail et rester à la maison. Mais est-ce que les hommes ne sont pas pour quelque chose ? Parce qu'on lit ici et là que les hommes ne s'intéressent plus tellement aux femmes, dans l'ensemble, en tout cas pas au mariage.
Oui, oui, je crois qu'il y a une crise marquée de... Ben, s'il y a un retard de la nuptialité féminine, il y a aussi de ce fait un retard. Ce qui change par rapport à des pays comme l'Europe ou la Suède, c'est qu'il n'y a pas de mise en couple hors mariage. Parce que dans l'ensemble des pays européens, la variable d'ajustement, si on peut parler comme ça, c'est quand même la mise en couple, qui fait que les gens s'engagent de manière moins définitive, ou en tout cas, même s'ils restent finalement longtemps ensemble, la décision de vivre ensemble est moins forte que quand on se marie. Et donc, dans la situation actuelle du Japon, qui, à mon avis, est une situation profondément de transition, on n'est pas passé encore à un autre modèle. Mais il y a un refus.
De transition de quoi ?
Oui, on n'est pas, on refuse complètement le modèle ancien du mariage traditionnel avec la femme qui obéit complètement à son mari, etc. Mais il n'y a pas vraiment encore un nouveau modèle qui serait, disons, la mise en couple avec une liberté sexuelle relativement avancée. Et ne serait-ce que les méthodes de contraception et leur usage montrent qu'il n'y a pas du tout, d'utilisation de la pilule, par exemple, au Japon, ce qui est quand même assez étonnant. Il y a, ah bon, 2% de pratiques de Japon. C'est essentiellement le préservatif et c'est les méthodes traditionnelles, méthodes Ogino, le retrait, enfin des méthodes vraiment archi-traditionnelles. Donc ça, ce n'est pas non plus un élément de, disons, de liberté, de sentiment de liberté, etc., pour des nouveaux comportements.
Même chez ces femmes qui ont fait des études universitaires, oui, et qui, oui, sont des super cadres.
Oui, même chez ces femmes. Donc, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Mais en l'état actuel des choses, on n'est pas encore dans une nouvelle période où les comportements seraient complètement ajustés, je dirais, à ce qu'on voit ailleurs, à ce qu'on appelle facilement la modernité.
Alors, à vous écouter, encore une fois, on a l'impression qu'on a souvent inventé le Japon comme un pays qui a su concilier modernité et tradition. On a l'impression que là, on a une sorte de guet, et que finalement, cette fusion n'a pas eu totalement lieu.
Oui, oui. Non, je crois qu'effectivement, c'est... La société a du mal, elle a envie de conserver ses valeurs. Elle reste assez conservatrice, hein, la société.
Et, mais en même temps, on dit ici et là que les jeunes veulent rompre avec le modèle productiviste, l'obéissance, la réussite, le stoïsme, etc.
Oui, je pense que c'est des choses qu'on voit d'ailleurs... pas uniquement au Japon, qu'on voit en Corée du Sud, qu'on voit à Singapour. C'est quand même des sociétés qui sont très avancées sur le plan économique, technologique, et qui viennent de comportements, enfin, où les jeunes appartiennent à des familles où le comportement est resté longtemps traditionnel, et donc il y a eu des freins très importants au changement et aux innovations en termes de comportement.
Alors, est-ce que la situation actuelle est inéluctable pour vous ?
Inéluctable, peut-être que vous parliez tout à l'heure de la disparition totale des Japonaises.
Peut-être pas totale, d'une baisse drastique.
Qui est une baisse drastique, oui, c'est plus que vraisemblable. Puisque qu'est-ce qui pourrait changer ? Il faudrait qu'il y ait une relance vraiment de la fécondité. Si la fécondité du jour au lendemain remontait à ce qu'on appelle le niveau de remplacement, c'est-à-dire autour de 2 enfants par femme, la population du Japon se stabiliserait à terme à 110 millions. Mais ça, c'est pas vraisemblable que ça se fasse rapidement. Enfin, ça ne peut pas se faire de manière immédiate. Ça peut se faire avec en prenant 20 ans, par exemple, en 20 ans. Et déjà, le fait d'attendre 20 ans fera que la diminution sera déjà marquée. Alors, l'évolution de la mortalité, elle est de toute façon secondaire en termes d'évolution des perspectives. Par contre, ce qui est intéressant dans le cas du Japon, c'est la question de la migration, puisque dans tous les pays qui voient leur population vieillir beaucoup, l'idée qu'on a quand même, la première idée, c'est que les migrations peuvent essayer de freiner ce vieillissement.
Oui. Alors, avant de parler de la migration, parce que là, vous abordez presque les questions économiques, est-ce que cette baisse telle qu'elle se présente aujourd'hui est une menace pour cette économie quand même, qui est l'une des plus importantes du monde?
Oui, je pense. Pour l'instant, ils sont encore dans la phase où les actifs sont nombreux, puisqu'on est encore dans la phase où le poids de la population active par rapport à la population inactive est important. Donc aujourd'hui...
Mais active de quel âge, de quelle tranche d'âge?
On considère actif une tranche large, c'est-à-dire les 15-65 ans. Donc, en fait, l'entrée sur le marché du travail est plus tardive, mais disons que ça donne une idée des poids, des masses en présence et de la charge que représentent les inactifs pour les actifs. Cette charge aujourd'hui, elle n'est pas considérable si on prend juste aujourd'hui. Et ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est dans une croissance zéro avec une charge qui est encore tolérable. Si on pouvait se permettre de conserver cette situation, je pense que la situation du Japon serait tout à fait satisfaisante. Le problème, c'est que cette croissance zéro et cette charge actuellement, elle ne peut pas se maintenir comme ça parce qu'il y a un potentiel de décroissance qui est accumulé depuis un certain nombre d'années. Donc c'est impossible que la population se stabilise dans l'immédiat et c'est impossible que la charge des inactifs n'augmente pas fortement dans l'avenir.
Alors, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que d'un côté, on dit que la population baisse de manière drastique, donc c'est une menace sur l'économie. De l'autre, on voit le taux de chômage qui augmente, et notamment le taux de chômage parmi les jeunes. On ne comprend pas.
Oui, mais ça, c'est vrai de toutes les sociétés. Il y a un décalage entre la vision démographique de la société et la vision économique. On peut avoir un relatif manque de personnes actives et qui est quand même du chômage, qui sont quand même des chômages d'adaptation. Là, il y a quand même un chômage qui est un chômage de crise et le chômage globalement n'est pas encore très, très élevé au Japon si on compare aux pays développés. Oui. Mais c'est vrai que ça touche les jeunes, plus les garçons que les filles d'ailleurs, mais aussi parce que ils sont plus nombreux à rentrer sur le marché du travail. Donc il y a toujours l'effet pour les femmes d'une espèce de sélection, auto-sélection. Elles se présentent moins, donc elles ont moins de risques d'être chômeuses parce qu'elles se présentent moins sur le marché du travail que les garçons.
Alors j'ai vu aussi, par exemple, que les universités, y compris les meilleures, n'ont pas assez d'étudiants. Est-ce que ça veut dire vraiment que ça devient de plus en plus tangible?
Oui, ça, c'est vraiment... quand on regarde...
Notamment les universités privées, apparemment, qui n'arrivent plus à trouver d'étudiants, pas parce que c'est cher, mais parce qu'il n'y en a pas, tout simplement.
Oui, quand on regarde, ça fait quand même un certain nombre d'années que cette fécondité est basse. Donc maintenant, ceux qui ont été les premiers à appartenir à des générations très restreintes, sont en âge d'aller à l'université. Et il y a une compétition entre les universités très forte pour essayer d'attirer les étudiants et de... C'est un problème qui se pose un peu partout, d'ailleurs. C'est pas propre au Japon.
Enfin, simplement... ça ne se pose pas partout. La baisse de la démographie universitaire, c'est pas partout.
C'est quand même assez général. Mais simplement, c'est pas avec la même intensité. Si vous voulez, c'est que quand on est dans des niveaux de un nombre d'enfants par femme qui tourne autour de 1,8, les changements sont moins nets et moins marqués que quand on est à 1,3 depuis déjà un certain nombre d'années. Donc ce problème, le Japon n'a pas des problèmes complètement différents des autres pays développés. Il les vit de manière plus intense. Parce que du fait de cette alliance entre une fécondité très très basse et une espérance de vie très très élevée.
Donc, ils peuvent se retrouver, la génération par exemple de plus de 60 ans, pour être plus nombreuses que celle de 25 ans.
Il y aura un renversement des structures avec un poids de la population de plus de 60 ans qui sera plus importante que la population jeune. Ça, c'est relativement inscrit dans les évolutions aujourd'hui.
Je crois que dans l'un de vos écrits, vous dites que c'est peut-être ça l'élément primordial, ce renversement de tendance.
C'est l'élément primordial, surtout quand on est dans un système où la solidarité, les relations intergénérationnelles fonctionnent moins bien, ce qui est possible. Parce que quand on parle de la dimension crise économique, difficulté des jeunes à aller sur le marché du travail, c'est quand même un élément très important en termes de relations entre les générations. Je veux dire, si on veut qu'il y ait une prise en charge collective des personnes âgées, il faut que les gens puissent travailler, etc. Si on veut qu'il y ait une prise en charge individuelle des personnes âgées, c'est-à-dire qu'on s'occupe de ses parents, de ses grands-parents, il faut aussi être soi-même dans une situation qui le permette. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que la situation sur le marché du travail est inquiétante si les jeunes n'arrivent pas à trouver une place sur le marché du travail. Et le potentiel de croissance...
À moins de baisser l'âge de la retraite pour libérer les places.
Oui, mais là on retombe toujours sur cette équation que personne n'a réussi à résoudre, qui est que est-ce qu'on doit laisser du travail pour les personnes âgées ou est-ce qu'on doit laisser du travail pour les jeunes? Quand on a un certain niveau de chômage, est-ce qu'il y a toujours l'idée qu'on va baisser l'âge de la retraite pour créer des emplois pour les jeunes, en tout cas qu'il y ait une substitution de jeunes aux personnes âgées? Et puis en même temps, on alourdit considérablement les charges du vieillissement, donc les charges qui vont peser sur les actifs et en particulier les jeunes. Et il n'y a pas de solution. Tous les pays ont quand même navigué un peu autour de ça en se disant si on baisse l'âge de la retraite, ou même si on ne la baisse pas, mais si on favorise les mesures pour que les gens sortent du marché du travail vers 50 ans ou 55 ans, ça va être bénéfique aux jeunes, mais il s'avère qu'on n'a pas observé ça nulle part.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure une période de changement de valeur, peut-être dans le Japon, qui pourrait sortir de ce productivisme. Et est-ce qu'on peut imaginer, parce que j'ai vu qu'il y a des Japonais, par exemple, qui se disent, si on est moins nombreux, pourquoi pas ? Pourquoi pas, on pourra respirer, Tokyo sera une ville vivable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, alors bon, la question urbaine est un peu une question particulière puisque les gens se concentrent dans des grandes villes. Mais la décroissance de la population n'est pas en soi. Enfin, il n'y a pas un nombre d'habitants qui soit mieux qu'un autre. Si le Japonais était 90 millions au lieu de près de 130, ce ne serait pas forcément plus mal en soi. La difficulté, c'est qu'il faut gérer des changements de structure par âge. C'est qu'on ne passe pas de 127 millions aujourd'hui à 90 dans 45 ans, mettons, sans qu'il y ait des bouleversements de la structure par âge et donc des rapports entre les nombres d'actifs et nombres d'inactifs qui changent considérablement et qui peuvent changer considérablement d'une année sur l'autre parce que ça entraîne une baisse très rapide de la population, s'accompagne de chocs en termes de structure par âge, mais de chocs qui ne vont pas toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de fluctuations qui se mettent en place et qui font que ça peut être très difficile de gérer des effectifs sur le plan scolaire, par exemple, ou universitaire. Une année, on a beaucoup d'étudiants, l'année d'après, on n'en aura pas beaucoup, etc. Des fluctuations de ce type. Donc c'est beaucoup plus un problème de structure par âge et comment accompagner les évolutions de la structure par âge qu'un problème d'effectifs en tant que tel. Il n'y a pas un chiffre, quel que soit le pays qu'on considère, il n'y a pas un chiffre qui est le chiffre idéal.
En fait, le Japon lui-même ne se fixe pas tel chiffre qu'il faut atteindre
non,
en matière
non.
De
simplement, il y a toujours un peu l'idée que si on est proche du niveau de remplacement des générations, c'est-à-dire si on n'est pas très loin de 2 enfants par femme, bah ça va parce qu'on n'augmente pas et on ne diminue pas trop. Donc il y a l'idée qu'on va stabiliser la population et ça paraît raisonnable, je dirais. Ce n'est pas qu'on a prouvé que c'était mieux qu'autre chose, c'est que c'est un objectif qui paraît raisonnable et qui paraît souhaitable. Mais il n'est pas pour autant facile à atteindre parce que arriver
oui,
à deux.
Justement, oui. Quelle est la marge de manœuvre dont dispose le gouvernement ? On a vu, par exemple, que pendant la campagne électorale et des élections qui viennent avoir lieu, cette question démographique était présente avec les promesses et chaque parti promettant ce qu'il allait faire pour relancer la natalité.
Oui, ça fait une dizaine d'années que le Japon se préoccupe beaucoup des questions démographiques.
Même un ministère pour ça.
Oui, c'est préoccupé aussi des questions de sécurité sociale, et d'ailleurs, ils ont relié maintenant la partie population est liée à la partie sécurité sociale, parce qu'ils ont un petit peu abordé la question à travers le système des retraites. D'un coup, ils ont pris conscience que ce vieillissement allait être très difficile à gérer en termes de système des retraites. Donc, il y a eu un accent fort qui a été mis sur les questions de sécurité sociale. Mais aujourd'hui, la dimension basse fécondité devient une dimension majeure. Et faire changer les comportements d'une population à court terme, c'est quand même très, très difficile. Il n'y a pas d'exemple, il y a très, très peu d'exemples, à part des exemples de pays qui ont utilisé un mode coercitif. Il y a peu d'exemples de pays qui ont pu changer vraiment les comportements de fécondité avec des mesures particulières. Quand il y a eu des mesures répressives,
pas dans les démocraties.
Dans le sens de la réduction, ça s'est fait. Bon, si on ne parle pas de la Chine, mais ça s'est fait à Singapour, ça s'est fait à Taïwan, ça s'est fait à un certain nombre d'endroits. Mais par des mesures qui étaient quand même semi-autoritaires, qui consistaient dire les fonctionnaires qui ont 3 enfants seront pénalisés, etc. Des mesures incitatives. Au mieux, ce qu'il y a, c'est que les gens qui veulent avoir un deuxième enfant l'ont un petit peu plus tôt parce qu'il y a une prime et ils se disent la prime, on n'est pas sûr qu'elle va tenir, donc prenons-la aujourd'hui.
Mais le nouveau gouvernement a promis une prime de quelques 200 euros, je crois, par enfant jusqu'à la fin du collège.
Oui.
Est-ce que ça suffit ? Parce que rien du tout.
C'est complètement dérisoire par rapport au coût d'un enfant. Je veux dire, si on fait le calcul économique du coût d'un enfant, il n'y a pas beaucoup de primes qui peuvent permettre de couvrir ces coûts. Donc c'est quand même bien, in fine, le fait que les gens veuillent un enfant ou n'en veuillent pas, ou alors qu'on enlève des obstacles.
Et quels sont les obstacles pour vous ?
Alors, Et si on compare un petit peu avec la situation de la France, Et les Japonais, d'ailleurs, eux-mêmes, s'intéressent beaucoup à la France. Ils veulent régulièrement, et ils viennent nous voir, ils nous demandent...
Mais ils alors, aimeraient bien voir le même autour de natalité.
Oui. Donc, ils demandent qu'est-ce que vous faites de particulier. Alors, on est quelquefois relativement embarrassés, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a des éléments qui sont importants, et que la politique familiale a joué un rôle, la prise en charge très précoce des enfants dans le système de préscolarisation. Ça, tout le monde s'accorde à reconnaître que c'était un élément très important, et que c'est plus important que les primes financière. Mais si on compare les mesures en France et au Japon, elles ne sont pas radicalement différentes. C'est-à-dire, le Japon n'est pas un pays où il ne se passe rien. Il y a des allocations, il y a des prises en charge, des revenus de substitution. Donc, il y a un certain nombre d'efforts qu'ils ont faits, mais il semble que les entreprises...
Mais l'enseignement n'est pas gratuit.
Oui, alors ça, c'est un élément effectivement capital. Donc, les gens, dès qu'ils ont un enfant, ils intègrent le fait qu'il va y avoir un coût de la scolarisation considérable. Et en plus, un certain nombre de mesures familiales ressortent des décisions des entreprises. Et il semble que toutes les entreprises ne jouent pas complètement le jeu. Et il semble par ailleurs que dans tous les systèmes de prise en charge collective, il y a aussi des listes d'attente importantes. Donc il peut y avoir des règlements qui ne sont pas si différents les uns des autres, mais la pratique, l'application de ces règlements qui soit, elle, un peu différente.
Donc une amélioration administrative, entre guillemets, de ce qui se pratique en matière d'allocation, en matière d'aide aux familles, vous pensez que c'est quelque chose qui peut relancer le...
Je ne pense pas que ça puisse relancer. Je pense que
parce qu'il y a un changement de mentalité, vous l'avez dit depuis
le
début.
Oui, je pense que ça peut améliorer la situation de ceux qui ont des enfants, déjà. Et de proche en proche, ça peut avoir un certain effet, mais ça ne va pas changer radicalement les choses. Je veux dire, une femme qui n'est pas mariée, qui ne travaille pas, ne va pas du jour au lendemain se marier et avoir des enfants parce qu'on a augmenté une prime.
Et les hommes qui ne veulent pas tellement fréquenter les femmes sans être homosexuels pour autant.
Oui. Il n'y a pas la même... Mais donc, cette voie de la relance de la fécondité, moi, je ne la vois pas, comme possible dans un avenir proche. Bon, bien sûr, il faut prendre des mesures, mais je veux dire, il n'y aura pas des effets. Les effets à attendre, à mon avis, sont limités.
Oui. Alors, justement, les économistes évoquent l'immigration comme une sorte de palliatif en attendant. Mais en même temps, quand on a vu les émeutes anti-chinoises, on se dit peut-être que les Japonais ne sont pas prêts à être, pas minoritaires, mais avoir autant d'étrangers chez eux.
Ben, je crois qu'ils ne sont pas prêts à en avoir autant, mais ils ne sont même pas prêts à en avoir peu, un peu, parce qu'il y a quand même une xénophobie qui se maintient au Japon, et ce qui est quand même curieux, même à l'égard des anciens, enfin des descendants de migrants japonais. Donc à un moment donné, on a considéré que eux, c'était ceux qui pouvaient être le plus facilement absorbés par la société japonaise. Mais finalement, quand ils sont arrivés dans les années 90, ils ont dû faire face à beaucoup de xénophobie. Ils ont bénéficié des années fastes. Dans les années 2000, ils ont fait, pour certains d'entre eux, fait venir leur famille. Mais maintenant, ils sont touchés par la crise. Ils sont dans les situations... Ce sont les moins qualifiés, donc c'est les premiers qui sont touchés. Et il y a à nouveau un rejet, alors que cette partie de la population étrangère est celle qui, a priori, devrait être la plus facilement intégrée. Donc la solution, et le gouvernement, quand il a parlé de la solution migratoire, a de toute façon dit qu'il n'est pas question d'avoir recours à une immigration massive, ce sera simplement à la marge. Et une migration simplement à la marge, ça ne modifie rien par rapport au potentiel de décroissance de la population japonaise.
Sauf ça peut-être que ça répond aux besoins de l'économie, non ?
Oui, enfin, ça peut être utile, mais je veux dire, ça n'inversera pas les tendances et ça ne compensera pas le nombre de naissances en moins. Sur un plan purement arithmétique. Qu'après, il y a des effets bénéfiques de l'immigration, ça, c'est une autre question. Mais je veux dire, ça ne sera pas une solution démographique au déclin de la population japonaise.
Oui. Alors, à vous écouter, quand même, on a l'impression que c'est une sorte de... une situation de crise presque morale.
Oui, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, je pense que c'est une société qui est profondément en transition. Elle est passée d'un état où d'une situation où la famille était très structurante à une société où sans doute l'individualisme se développe et elle n'a pas encore réussi à gérer des nouvelles formes d'individualisme qui soient conciliables avec des rapports collectifs. Donc mon sentiment, c'est qu'on est quand même dans cette période de transition et qu'il devrait y avoir des évolutions des comportements. Je ne suis pas pessimiste au sens où rien ne pourra changer.
Vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il n'y aura plus de Japonais en 2000,
tout non,
en
non,
l'an
non.
3000.
Non, non, je ne suis pas de ceux-là.
Merci Jacques Véran, on en reste là. Merci. Vous écoutez France Culture, c'était Place des Peuples. Aujourd'hui, le déclin démographique au Japon, avec Jacques Véran, qui est directeur de recherche à l'INED, attaché d'émission Solène Saleur, à la technique Julie Garraud, à la réalisation Jean-Christophe Francis. France Culture, il est 16h30, l'heure de retrouver la fiction pour les petits et les grands.